Nous ferons trois lectures avant de donner la parole à Philippe qui apportera la prédication. La première lecture se trouve dans le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, le début de ce chapitre, les cinq premiers versets. Ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé, car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera, et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, « Attends, que j'ôte la paille de ton œil, seulement voilà, la poutre est dans ton œil. » Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton voisin, de ton frère. Pardon.
Nous allons continuer la lecture dans 1 Corinthiens 2, les versets 11 à 15. Merci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne.
Et nous lirons maintenant dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, les versets 25 à 29. Tout ce qu'on vend au marché, mangez-le sans poser de questions par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle contient sont au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qui est offert, sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « c'est de la viande sacrifiée », n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a averti, et par motif de conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de la sienne. Car pourquoi ma liberté serait-elle jugée par une autre conscience? Alors j'invite Philippe à nous venir pour que nous puissions prier ensemble avant qu'il n'apporte le message. Dieu notre Père, nous avons entendu ta parole et nous te remercions maintenant de nous permettre d'y réfléchir. Nous te prions d'accompagner Philippe dans ce qu'il a à nous dire, dans ce que tu lui as donné comme inspiration. Nous croyons que ton esprit est là, qu'il a été avec lui dans sa préparation, qu'il est là avec nous dans cette écoute et nous voulons te bénir pour tes biens pour nous. En ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Merci. C'est pas mon anniversaire. Et, il m'apporte ça en me disant c'est une dame qui m'a dit de vous apporter ça. C'est gentil. C'est le bon moment. Par courtoisie, je vais ouvrir. C'est pas très souvent qu'on me donne des cadeaux comme ça. Je vais vite l'ouvrir pour que. M'assurer, parce qu'autrement ça va m'obséder, puis je vais y penser pendant tout le message, ça n'ira pas. Comme ça, vous en profitez aussi. Oh là là. Voilà une petite boy de lait, enfin une petite maquette de boy de lait. Oh, que c'est kitsch. Bon, heureusement, c'est peut-être une boîte de chocolat. Oh mince. C'est du chocolat, mais c'est du After Eight. C'est un chocolat que je déteste. Mince. Bon, vraiment, il y avait un petit écriteau sur la papier. Je m'aperçois maintenant qu'il y avait ce petit écriteau à mon cher Philippe, tante Coralie. Mais elle est gentille, c'est une tante. Mais franchement, quelque chose d'aussi kitsch, c'est vraiment moche. Ça va pas chez moi. Et puis, qu'est-ce que je vais lui dire à Coralie? Parce que elle est bien gentille, mais... ce cadeau-là, franchement. Comment je vais me débrouiller avec ce verset qui dit l'amour, que l'amour soit sans hypocrisie. Voilà, c'est une petite introduction, évidemment, qu'on a fabriquée. Je n'ai pas de tante Coralie. Et ce petit bidon de lait en maquette kitsch, ben, je l'ai trouvé chez moi. C'est tout du bidon, c'est le cas de le dire. Voilà, alors... je vais parler quelques mots de ce sujet que nous avons esquissé dans ces textes, celui du jugement. Vous aurez peut-être été étonné d'entendre que, oui, nous ne devons pas nous juger, nous ne devons pas juger les autres. Et l'homme spirituel juge de tout. Il faut bien qu'on se débrouille avec ça. Il y a une coutume assez répandue dans nos milieux évangéliques, surtout, c'est de dire, effectivement, il ne faut pas juger. Pas juger les autres, c'est pas quelque chose à faire de s'ériger en juge. On n'est peut-être pas habilité à juger nos frères ou nos sœurs en la foi, et peut-être même pas ceux du dehors, toute religion confondue. Et dans certains milieux plus libéraux que les nôtres, on dira qu'il est vraiment inconvenant de juger les coutumes, les religions, ou les croyances d'autrui au nom du respect de la différence et du droit à la différence. C'est très à la mode. Alors, si il paraît évident, et il vous paraît évident qu'il ne faut pas s'ériger en juge de la vie d'autrui, on risque d'aller droit dans le mur si l'on s'en tient strictement à cette idée de non-jugement. Le mur contre lequel on arrive... c'est de constater un jour que notre effort pour ne pas juger est motivé par deux raisons qui peuvent être aussi moches l'une que l'autre. La première, c'est parce qu'on est sournois. On juge intérieurement, comme je l'ai fait avec mon petit cadeau, parce que je sais que la tante Coralie, elle n'est pas là. Donc je dis c'est moche, c'est affreux, je ne sais pas comment faire, j'aime pas le after eight. Ça, c'est mon jugement, mais je le formule pas. Donc, je suis d'une certaine manière un peu sournois. Je sais pas ce que je vais lui dire à cette fameuse tante Coralie. Ou bien, alors, on pense réellement qu'il faut pas juger. Et au nom du respect et du droit à la différence, il faut pas juger. Donc, adieu au témoignage. Adieu au partage de l'évangile. Donc, c'est un peu à ce carrefour entre le jugement et la conscience, entre le jugement et le témoignage que je vais parler, et nous allons voir qu'il faut juger, mais en étant conscient de la source du jugement que nous émettons. Évidemment, le jugement, c'est plusieurs choses. A priori, émettre un jugement, porter un jugement sur quelque chose, c'est avoir une opinion personnelle. Or, nous savons bien que nous passons nos journées à juger. Alors, on ne dit pas juger, mais en fait, nous faisons des discriminations à longueur de vie sur des personnes, des situations, des choses, et on oublie parfois qu'en portant ou en exprimant nos jugements, nous pouvons déclencher des réactions, parfois contrôlées, parfois imprévisibles. Il y a deux catégories de jugements sur lesquelles j'aimerais m'arrêter quelques minutes. La première catégorie, c'est les jugements qui s'adressent à nous-mêmes, que nous nous adressons à nous-mêmes, dans lesquels nous sommes juges et parties, dans le sens où nous nous faisons une opinion personnel. Pour se faire une opinion, nous comparons et nous sanctionnons. Et puis la deuxième catégorie, c'est des jugements qui s'adressent à autrui, qui concernent autrui, d'autres personnes que nous pouvons communiquer ou pas. Et alors, si nous communiquons un jugement concernant d'autres personnes, il est évident que nous dépassons la simple opinion personnelle pour aller vers l'influence. La première catégorie, donc ces jugements adressés, qui s'adressent à nous-mêmes, ça consiste à avoir du bon sens, à avoir de la jugeote, une banale préférence en matière de goût et de couleur. Vous connaissez l'adage disant « des goûts et des couleurs, il ne faut point parler ». Je pense que tout le monde a entendu ça. C'est bien connu, ça nous rappelle que les notions de beau, de bien, de plaisant, c'est des appréciations personnelles, voire culturelles. Il est inutile de vouloir en convaincre les autres ou d'en faire une norme qui s'applique à tout le monde. Dans ce registre, il faut juger pour nous-mêmes et ne pas en faire une norme pour autrui. Parce que si je prends mon petit objet, peut-être que quelques-uns le trouvent magnifique, le trouvent extrêmement bien et l'exposeraient dans son salon parce que c'est un joli souvenir. Moi, je pense que ça ne va pas chez moi, mais ce n'est pas grave. Hein. Et on ne va pas faire une norme avec cela. Donc, en fait, l'idée de prendre garde à ne pas imposer son opinion personnelle, ça ne veut pas dire rester muet comme une carpe et ne rien dire. Comme par exemple, si nous sommes dans une exposition de peinture, ça ne nous interdit pas de dire que cette peinture nous plaît énormément et l'autre dira « je la trouve absolument abominable », mais on peut dire pourquoi et c'est même un agrément d'avoir des opinions différentes. Pour autant qu'on ait la discipline de ne pas en faire, d'asséner notre vision comme quelque chose d'obligatoire pour les autres. Je fais une petite remarque en passant, une digression. Si vous pensez à la mode ou si vous pensez à la publicité, c'est des domaines dans lesquels on a une furieuse tendance à imposer comme un standard le beau ou le séant. Non pas pour l'esthétique en fait, mais pour l'argent que ça peut rapporter par le biais de l'intégration sociale que le fait d'être à la mode peut produire. Quoi qu'il en soit, nous nous rendons compte que notre jugement est un arbitrage entre les valeurs auxquelles nous souscrivons et d'autres valeurs qui ne sont peut-être pas les nôtres. Si je dois remplacer ma vieille voiture, je ne vais pas téléphoner au garage en disant « pouvez-vous m'apporter une nouvelle voiture ?» Je vais quand même aller comparer, je vais regarder des catalogues, je vais aller voir des marques. Un jugement est une discrimination, positive ou négative, mais est une discrimination. Alors venons-en à la seconde catégorie, des jugements qui concernent autrui, qui concernent notre prochain, plus subtil. À la limite, mon jugement sur autrui peut être une opinion personnelle. Une personne que je ne connais pas, je me fais une idée d'une personne, je vais juger pour moi, je ne vais pas le lui dire, ça c'est une opinion. Mais il y a une question qui se pose dès qu'on exprime ce jugement, dès qu'on exprime cette sanction ou ce critère de jugement. Parce que un jugement émis, parlé, manifesté peut avoir un impact important dès qu'il sort de notre bouche. La Bible dit « notre langue est un feu dévorant ». C'est-à-dire il a de l'effet. Hein. Une fois que la parole est sortie de notre bouche, voilà, des fois ça fait des dégâts. Ça, c'est une chose que je connais dans mon travail. Et j'ai passé un temps très considérable de ma vie professionnelle à faire des évaluations du tempérament professionnel. Ça, c'est un boulot, il y a des instruments techniques très sophistiqués pour le faire. On peut prédire le comportement des gens en leur posant des questions avec des grands systèmes. On voit par le recoupement des questions et des réponses, on voit le comportement qui induit les réponses des gens. Et en général, les gens sont terrorisés quand on leur dit, écoutez, voilà, vous me demandez de vous aider à vous repositionner, on va faire un bilan de votre tempérament professionnel, de votre personnalité. Alors les gens sont terrorisés, ils se sentent pris dans un piège, ils ont peur qu'on les manipule, ils ont peut-être raison. Et c'est très anxiogène, et mon travail consiste à enlever cette anxiété. Alors, je leur donne 5 caractéristiques de cet examen. Je leur dis d'abord, il est amoral. Amoral, donc, sans morale. Il n'y a ni bien ni mal dans cette affaire. Ensuite, ça en soulage beaucoup, il n'y a rien à écrire. Il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas besoin de rédiger. Alors ça en soulage un bon nombre. Et puis, je leur dis encore, il n'y a pas de score. Il n'y a pas de s'efforcer, de dépasser ou de rattraper quoi que ce soit. Il n'y a aucun score. Et je leur dis, il n'y a aucune réponse juste et aucune réponse fausse. Ça commence à être assez relaxant. Et puis, je leur dis une dernière chose, le temps de ce test, de ce bilan, n'est pas compté. Alors, ils sont tellement relax qu'ils me disent, mais alors, il sert à quoi votre test? Oui. Je dis, mais vraiment, ça sert à rien, n'est-ce pas? Eh bien, l'anxiété est tombée. Alors, les gens sont tout heureux de le faire parce qu'ils trouvent tellement bizarre qu'on fasse un bilan et un test sur des critères tellement autres que ceux qu'on a l'habitude, qu'ils sont tout heureux de le faire. Et en fait, ce qu'on évalue, c'est leur préférence. Donc, leur préférence, on ne va pas en juger, on va juste les mettre en évidence. Et pour une fois qu'on s'intéresse à leur préférence, dans la sphère professionnelle, alors les gens sont très contents, très collaborants. Parce que ça veut dire qu'on a toujours, quand on juge, de la crainte ou de la colère. C'est absolument, on génère cela. Arrivé là, posons-nous la question du jugement spirituel. Parce que c'est un peu ça qui va nous intéresser. Est-ce que nous devrions porter des jugements du domaine spirituel? Sommes-nous en somme habilités, voire assez experts, pour prononcer un jugement qualifiant une situation ou une vie spirituelle? La spiritualité de quelqu'un. Est-ce qu'on a la possibilité de faire cela? Évidemment, envers nous-mêmes, oui. Oui, ça demande de l'honnêteté intellectuelle, il est tout à fait conforme à la parole de nous juger nous-mêmes sur le plan spirituel et de juger si et dans quelle mesure je respecte et mets en pratique les principes bibliques. Un jugement que je me porte sur moi. C'est pas toujours simple parce que cela nécessite une référence à ce jugement, une source à ce jugement. Dans le domaine spirituel, tout le problème est de savoir si la source, la référence de notre jugement est une opinion personnelle ou est autre chose. Par exemple, comme autre chose, des données universelles, des données qui ne sont pas personnelles. Je vais vous faire une petite litanie. Vous allez tout de suite comprendre. Les notions de bien et de mal relèvent-elles du jugement personnel? Les notions de juste et d'injuste relèvent-elles du jugement individuel? Les notions de vérité et d'erreur relèvent-elles du jugement individuel? Les notions de foi et de crainte relèvent-elles du jugement individuel? Pas très facile de dire cela, parce qu'en principe, ce sont des choses universelles. Mais dans quelle référence? Dans la référence chrétienne. Et c'est très difficile de dépasser l'opinion personnelle. Ça, c'est un exercice extrêmement difficile. Et pourtant, l'apôtre Paul, il dit, mais l'homme spirituel juge de tout. Donc c'est un très grand problème. Dans la première lecture, Jésus dit, en fait, qu'il ne faut pas juger dans le sens qu'il ne faut pas disqualifier définitivement les personnes sur le plan spirituel. Dans certaines traductions, vous n'avez pas « ne jugez pas », mais « ne condamnez pas ». Vous avez sûrement plusieurs traductions et vous le voyez. Donc, il faut éviter de disqualifier des gens ou de les cataloguer comme si notre opinion personnelle était la norme. Hein, comme si on collait une estampille sur les gens. Hein. Donc, lorsqu'on dit « ne jugez pas », lorsque Jésus dit « ne jugez pas », c'est « ne condamnez pas », « ne mettez pas une estampille », celui-là, il est de cette catégorie. Et ça bloque toute évolution, et ça bloque tout dialogue, et toute perspective de changement. Pour juger correctement, ben, je vais prendre un exemple. Dans l'Ancien Testament, j'ai été très choqué par une situation, je ne sais pas si j'en ai déjà dit un mot, mais peu importe. Dans l'Ancien Testament, il y avait des règles extrêmement sévères, données par Dieu, par l'intermédiaire de Moïse. Vous lisez le Lévitique, Deutéronome, Lévitique. Vous avez des règles qui sont effrayantes, qui donnent une image d'un Dieu effrayant. Et dans Nombre 15, 32, j'avais relevé cette situation où les Hébreux dans le désert avaient donc des règles de vie très strictes et le texte dit « Les Israélites trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat, qui ramassait du bois. Ceux qui l'avaient surpris ainsi l'amenèrent à Moïse, bonjour l'ambiance, et à Aaron et à toute la communauté. Ils le tinrent sous bonne garde, car rien n'avait encore été prescrit quant à la peine qu'il fallait lui infliger. » Ramassait du bois, donc. Je me dis, mais aujourd'hui, mais quel jugement nous ferions transposer à, disons, un agriculteur qui, voyant le beau temps, prend sa machine à moissonner et le dimanche va moissonner un bout de champ parce qu'il a peur de l'orage ou ils annoncent de la neige, ou du mauvais temps plutôt. Et quelle peine infligerions-nous dans cette circonstance? L'Éternel dit à Moïse, alors voilà le jugement qui a été retenu. L'Éternel dit à Moïse, cet homme doit être puni de mort et toute la communauté l'exécutera à coups de pierre à l'extérieur du camp. Alors, toute la communauté le fit sortir du camp et le lapida jusqu'à ce que mort s'ensuive, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous voyez, ça c'est le genre de parole choquante que nous trouvons dans la Bible. Et qu'en penser? Bien sûr, on n'est plus sous ce régime. On est très loin de nos tribunaux dans lesquels les circonstances atténuantes sont quasi systématiques et finissent par faire accuser la victime d'avoir été là et à indemniser le criminel avec des excuses parce qu'on l'a soupçonné. Hein, je caricature un peu exprès. Le jugement qui a été donné là dans ce texte de l'Ancien Testament nous montre aujourd'hui simplement qu'entre Dieu et le péché, il n'y a pas de demi-mesure et il n'y a pas de circonstances atténuantes. D'autres textes montrent que même pour un péché commis par inadvertance, inconsciemment, il fallait offrir le sang d'un animal en réparation. C'est maintenant qu'il faut faire une articulation avec notre conscience. Paul dit dans le troisième texte, notre liberté n'a pas à être jugée par une conscience étrangère. Comment ça marche? Je vais prendre un petit exemple technique pour faire une illustration. Il y a quelques années, une toiture d'une hall de sport s'est effondrée. Il y a eu plusieurs morts. Je crois que c'était en Suisse centrale, Zurich par là. Brusquement, un effondrement d'une hall sur les sportifs qui sont là. Alors, terrible tragédie, plusieurs morts, et ensuite, formidable bagarre d'experts pour trouver la raison de ce désastre et attribuer les responsabilités civiles. Les experts étaient par définition des spécialistes de la technique, de la chimie, de la physique, des forces, du bâtiment, bref. En résumé, des gens qualifiés, des gens compétents, et donc autorisés à porter un jugement basé sur leur expertise. Il fallait Il y avait des millions en jeu pour dédommager les familles des victimes et des millions en jeu pour refaire les structures. Donc l'expert, il ne doit pas se tromper et il n'y a pas de fantaisie dans son jugement. Un avis d'expert qui apporte un jugement technique, ce n'est pas son opinion, c'est une science qui lui vient d'une spécialité. Prenons un exemple dans le jugement spirituel. Qu'est-ce qui nous autoriserait à émettre des jugements spirituels du moment que nous ne sommes pas forcément des experts, d'autant plus nous qui n'avons pas fait d'études de théologie, enfin, en tout cas ce qui me concerne. Eh bien là, c'est là qu'il y a notre conscience qui intervient. Notre conscience, eh bien, on a ce mot qui veut dire trois choses. Un, l'état de vigilance, dors pas, on est conscient. Bon. Deux, c'est le sens des responsabilités. Je suis conscient du risque que je prends. Bon, sens des responsabilités. Et trois, c'est ce qui nous intéresse maintenant, la conscience spirituelle ou morale, au sens chrétien du mot. Une référence. Et je peux tout de suite vous dire que dans ce domaine de la conscience au niveau spirituel, nous sommes exactement dans l'opposé de ce terme par rapport tel que beaucoup de gens le définissent dans le monde non chrétien. Si vous parlez de la conscience, au sens, par exemple, vous dites, on parle de l'éveil de la conscience. Vous avez tous lu quelque chose là-dessus. Éveil de la conscience, eh bien, vous allez tout de suite trouver de l'intérêt. Beaucoup de gens qui s'intéressent. L'éveil de la conscience. Vous allez voir une espèce de connivence. Vous allez voir une espèce d'intérêt manifeste. L'éveil de la conscience est une notion qui est une vraie friandise aujourd'hui. Et il faut comprendre sous ces mots utilisés dans le monde séculaire, dans le monde non chrétien, comme la prise de conscience de notre potentiel divin. Bon, notre potentiel divin, je sens un peu le souffle, mais enfin, bon, c'est flatteur. Parce que si d'une manière ou d'une autre, avec des exercices par exemple, je prends conscience que Dieu est naturellement en moi, ben, je vais devenir progressivement juge de tout. Le pire que j'ai entendu dans ce domaine, c'est la phrase suivante, je l'ai entendue, prenez conscience que Dieu est en vous et au fond que vous êtes Dieu. Une monstruosité telle que celle-ci ne pose aucun problème aux personnes, souvent peu cultivées, qui l'expriment. Et pour cause, elles s'arrogent progressivement un statut de juge suprême en ce qui concerne le bien, le mal, la vérité, l'erreur, savent tout. Et donc, tout est sous leur jugement. Et en fait, ces personnes sont suffisamment aveuglées pour se croire personnellement devenues la référence en termes de sagesse. Mais il ne vous aura pas échappé, si vous avez été attentif, mais vous l'avez été, que l'apôtre Paul, dans le deuxième texte, dit un peu la même chose. L'homme spirituel juge de tout. Mais ça marche comment? On est complètement différent du contexte que je viens d'évoquer. Il ne faut pas se tromper quant à la source de notre jugement et de notre capacité de juger. La source du jugement de l'apôtre Paul est exactement l'opposé de celle des spiritualités modernes. L'expertise de Paul pour porter un jugement spirituel vient de l'enseignement de la parole, de la connaissance qu'il possède de Dieu, de la communion en Jésus-Christ et de l'inspiration de l'Esprit. Rien de moins. L'expertise des maîtres est éveil de la conscience, vous voyez ce que je veux dire. Elle est aussi inspirée de la Bible. Aussi inspirée de la Bible, mais c'est pas là au même chapitre. C'est pas au même chapitre. Je vous laisse deviner l'auteur de ces doctrines de l'éveil de la conscience ancienne. Hélas, c'est aussi dans la Bible, mais ne nous trompons pas de chapitre. L'auteur dit ceci, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu, connaissant vous-même le bien et le mal. En Éden, le serpent ancien dit, si vous faites allégeance à ma personne, et mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien vous deviendrez comme Dieu. Vous serez vous-même juge de tout, avec le grand sous-entendu que vous pourrez vous passer aisément de Dieu. Alors en conclusion, on peut en déduire que la faculté qui nous permet de bien juger les choses du domaine spirituel, à l'instar de l'apôtre Paul, consiste d'abord à bien distinguer l'origine de notre expertise spirituelle. Faut-il le repréciser? Moi, je suis sûr que je l'ai déjà dit, mais je ne me lasse pas de le répéter. Comme chrétien, plus j'ai la conscience éveillée, plus je suis convaincu de ne pas être divin. Ni une partie de Dieu, ni créateur, ni à l'origine du bien et du mal, ni à l'origine de la vérité et de l'erreur. Je ne suis rien sous réserve de la grâce de Dieu et de la résidence plus ou moins manifeste ou manifestée de son esprit en moi. À partir de là, notre faculté de juger est exactement à l'inverse de celle des maîtres S, éveil de la conscience, qui suggère que Dieu fait partie naturellement d'eux et non par grâce. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus, mais par son esprit, nous pouvons juger de tout. Nous pouvons juger de tout par l'esprit, mais il nous incombe d'y mettre les formes, notamment la douceur et le respect. Pour autant qu'il en dépend de nous-mêmes, si nous sommes appelés à formuler un jugement, il ne devrait pas en résulter une rupture des relations. Évitons de confondre une personne et un geste. On ne réduit pas une personne à un geste ou à une parole d'un jour. Jugeons de tout en connexion avec la source du juste jugement. Exprimons le jugement par le lien de la perfection, l'amour qui bannit précisément la crainte. Mais quelle crainte? Justement celle du jugement. Et je pense que si j'aime quelqu'un, je vais rechercher son jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter le chant 858 ou 382. C'est au choix des musiciens.